BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Happy Boulot, le mag. Aujourd'hui au menu, un trublion de la marque employeur. Comment fait Michel et Augustin pour qu'on ait tous envie d'aller fabriquer des mousses, même quand on est comptable ou graphiste? On posera la question au CEO Sébastien Guillon. Et puis, qui n'a pas rêvé d'être poursuivi par des chasseurs de têtes? On va demander à Chantal Baudron comment susciter le désir pour des cabinets comme le sien. En fin d'émission, on parlera feedback avec un spécialiste de la question, Stéphane Moriou. Comme les chasseurs, il y a des bons et des mauvais feedbacks. Il faudra faire le tri et il va nous aider. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Sébastien Guillon. Bonjour.
Bonjour Laure.
Vous êtes CEO de Michel et Augustin. Alors, qui ne connaît pas Michel et Augustin quand même? Mais je rappelle, créé en 2004 par Augustin Paluel-Marmont et Michel Rovira, des stars maintenant, hein, des célébrités, racheté par Danone. Le seau entier de mousse au chocolat, les yaourts à boire, les cookies, j'en passe. 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 salariés, un peu plus?
Un petit peu moins en France, on est 90 en France.
Un marketing digne des plus grandes écoles de commerce, hein, c'est normal puisque les fondateurs en viennent. Ce qui nous intéresse dans Happy Boulot le mag, c'est la force de la marque employeur de Michel et Augustin. On a vu ces célèbres publicités, c'était il y a 4 ans, 3 ans à peu près,
ouais,
en 2016. Il y avait une DRH qui hurlait dans le métro, « Venez travailler chez nous, je cherche des individus, je ne les trouve pas ». Cette campagne-là, ça a marché, vous avez recruté vraiment?
Alors déjà, ce n'était pas de la pub, c'était une vraie action qu'on a menée dans le métro avec une volonté de diversifier les profils qu'on avait chez nous. Et c'était une idée d'Augustin de dire « mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher les gens là où ils sont dans la vraie vie, c'est-à-dire dans le métro ?» Et donc Anne-Claire est partie dans le métro avec son micro pour essayer de recruter des gens. Et on a eu pas mal de candidatures.
Mais donc, des gens que vous avez gardés, c'est-à-dire que vraiment ça a été utile ou...
Absolument.
Ou la pub quand même? Parce que vous dites que ce n'est pas de la pub, mais ça a quand même bien fonctionné.
En fait, ça a été utile parce qu'on a eu des vraies candidatures, mais ça a été utile parce que c'était des vidéos qui ont eu vraiment beaucoup de vues et qui nous ont aidé à gagner en notoriété. Et derrière, ça a eu un effet de bouche à oreille. Et du coup, on a recruté de plus en plus de personnes. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. On a un grand programme de cooptation, ce qui est très bien d'un certain point de vue, parce qu'on connaît mieux les candidats qu'on va recruter. La personnalité chez nous est extrêmement importante. Mais l'effet négatif de ça, c'est qu'on attend à recruter parfois des profils qui sont un petit peu similaires. Et du coup, la volonté d'aller trouver des gens qui ont un parcours différent, une expérience différente, une personnalité différente, c'est extrêmement important pour nous. Et c'est une vraie volonté.
Mais vous êtes un des pionniers sur la question de la marque employeur, des soft skills. On ne parlait pas à l'époque des soft skills, mais c'est ça que vous recherchez, c'est de la personnalité. Vous avez quand même le recul, 4 ans après ces campagnes. Vous dites, c'est la bonne manière de recruter. Vous faites un bilan positif.
C'est un bilan extrêmement positif. Aujourd'hui, on a plusieurs manières de recruter. Il y a bien évidemment LinkedIn qui est un outil extrêmement puissant. Il y a les cabinets de recrutement. Je crois qu'il y a Chantal qui est...
Absolument, on va parler avec Chantal Baudron après.
Juste derrière. Nous, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est la personnalité du candidat. Et c'est pour ça que de plus en plus, on appelle ça l'esprit trublion chez Michel Augustin. Donc de plus en plus, passer par des cabinets de recrutement pour nous, c'est un petit peu forcer le trait parce que souvent, c'est recruté sur des compétences. Or, nous, on cherche vraiment des personnalités, des gens passionnés, des gens engagés et des gens qui viennent chez Michel Augustin parce qu'ils connaissent notre aventure et ils ont envie de vivre cette aventure et de la faire et de la développer.
Alors, comment vous les testez sur la personnalité? Vous faites un quiz pâtissier, vous leur faites goûter, vous leur faites reconnaître les produits?
Alors, en fait, il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a pas mal de candidats qui nous envoient des candidatures qui sont extrêmement originales. Et donc, ça permet d'émerger. Là, récemment, on a recruté une stagiaire.
Ouais, par exemple.
Elle nous avait envoyé une boîte en carton. Quand on a ouvert la boîte en carton, il y avait des ballons gonflés d'hélium avec des taches comme des vaches qui sont sorties avec une petite enveloppe « Ouvrez-moi ». Dedans, il y avait une clé USB et elle racontait pourquoi elle voulait venir chez Michel et Augustin.
Ça marche.
Ça marche.
Vraiment.
Mais ça
parce que
ça
franchement,
a un impact
moi,
incroyable.
Je passe mon temps à dire que les CV galettes des rois et les machins, les trucs, ça ne fonctionne pas. Donc CV galettes des rois, c'est pour vous, en
peut-être
fait.
Peut-être quand on va dans des grandes boîtes du CAC 40, ça ne marche pas. Mais nous,
vous êtes sensible à ça.
On n'est pas... on ne fait pas partie de Danone, comme vous l'avez dit en introduction. Danone est un de nos actionnaires, mais on reste extrêmement indépendant. Et on veut cultiver cet esprit d'indépendance. Et le côté impertinent, le côté trublion qui s'exprime dans nos produits, dans nos recettes et dans nos communications, c'est quelque chose qu'on doit faire vivre en interne. Et c'est certainement le critère le plus important et le plus indispensable.
Danone a 95% du capital.
Oui, mais il nous gère de manière complètement indépendante. On n'a pas les mêmes normes, on n'a pas les mêmes règles, on n'a pas les mêmes process. On est géré de manière complètement indépendante.
Donc il y a toujours...
Et c'est extrêmement important pour nous.
Et c'est extrêmement important, notamment à cause des deux fondateurs ou grâce aux deux fondateurs, Augustin et Michel. Au quotidien, ils sont là. C'est quoi leur place dans le management?
Alors Michel et Augustin, c'était les deux fondateurs qui étaient là au tout début et qui ont fondé cette extraordinaire aventure. Aujourd'hui, ils ont pris pas mal de recul. Ils sont plus du tout dans l'opérationnel. C'est pour ça que moi, je suis arrivé il y a un an. Mais ils restent très impliqués dans les décisions stratégiques, dans l'accompagnement, dans la vision, dans la définition des budgets, dans toutes les décisions assez fondamentales. Mais dans le quotidien, ils sont plus présents. Ils sont plus présents au bureau. Et c'est pour ça qu'on s'appelle la tribu, parce qu'on a un mode de collaboration qui est de travail qui est extrêmement collaboratif, où chacun a vraiment son mot à dire et chaque trublion, enfin le collectif des trublions sont vraiment ceux qui aujourd'hui font vivre l'aventure, développent les recettes, ont les idées des campagnes.
Et dans la décision, à un moment donné, ça pose pas de problème comme ça, parce que quand tout le monde décide, à un moment donné,
Une petite structure. On est 90 personnes. On a un mode de fonctionnement qui est très ramassé et c'est extrêmement extrêmement facile. On a une idée le matin quand on prend le métro. On arrive au bureau à 9h. On brief notre studio créa qui est en interne. À midi, on a des premiers retours. L'après-midi, on passe sur les réseaux sociaux. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, on passe à autre chose. Donc, on a aussi une manière de gérer le risque qui est extrêmement différente de ce qui se passe dans les grands groupes. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans des grands groupes et c'est une vraie découverte. Et un vrai bonheur de travailler dans une structure très
donc grande. Je fais mon CV Galette des Rois ou Ballon à l'Hélium, ça fonctionne, vous me convoquez à un entretien et après quoi
Alors là, on passe par un outil qui s'appelle Smart Recruiter, ouais. et on a quatre questions, donc c'est des questions assez impertinente, où on demande qui es-tu vraiment, on demande
c'est psychologique quoi.
Quelle est ta passion dans la vie et par rapport à la manière dont les gens vont répondre, on a un premier filtre qui est appliqué par notre DRH, et après c'est des entretiens assez classiques.
Et si on n'a pas de passion,
et on a très peu d'entretiens. Si on n'a pas de passion, c'est difficile de venir.
Donc si on n'a pas de passion, on peut pas aller chez Michel et Augustin.
On est tous absolument passionnés et ça fait vraiment partie de nos critères.
Mais on peut avoir une passion qui n'est pas la pâtisserie quand même. Alors,
heureusement.
Ça fonctionne.
On a des passionnés d'escalade, on a des passionnés de ski, c'est ce qui nous concerne. On a des passionnés de danse, on a des chanteurs, on en a qui font des comédies musicales. Mais chaque trublion a vraiment une touche personnelle qui est extrêmement importante. Et c'est ce qui fait qu'on a une aventure unique et que venir travailler chez Augustin, c'est pas juste travailler, mais c'est faire partie d'une aventure qui est assez extraordinaire.
La semaine dernière, on avait la DRH de SAP, activité quasiment 100% télétravaillable. Vous, c'est pas votre cas. Comment vous êtes organisé quand il a fallu continuer l'activité?
Nous, on était très fiers au début d'être passé en télétravail et que ça se passe extrêmement bien. Du jour au lendemain, tout le monde est passé en télétravail et on a réussi à mettre en place des outils collaboratifs, Microsoft Teams par exemple, oui. et ça s'est extrêmement bien passé. Ce qu'on a vu, c'est qu'au bout d'un mois et demi, deux mois, il y avait un vrai manque de créativité, parce que autant on arrivait très bien à gérer l'opérationnel, le quotidien, les urgences, autant sur des projets plus structurants, plus fondamentaux, de développement de recettes, de développement de campagne, etc. Il nous manquait cet aspect-là. Et on l'a ressenti aussi dans l'envie du trublion et sa motivation, qui avait un espèce d'essoufflement. Et donc là, on reprend en partie en télétravail, en partie en présentiel, et on demande à ce que chacun vienne en moyenne deux jours par semaine, avec beaucoup de flexibilité sur les horaires, sur la manière de
travailler.
Donc
clairement, à un moment, il y a une crainte pour l'innovation.
Il y a une crainte pour l'innovation, mais c'est une vraie demande en fait de nos employés de reparticiper à cet esprit collectif.
Je vais vous faire le même quiz qu'à tout le monde, le quiz stop ou encore.
Le fameux.
Alors, je vais pas vous demander si on dit stop ou encore au CV classique. Vous allez me dire, mais tout, envoyez tout.
On l'a jamais eu.
Jamais, ouais, jamais. Vous êtes vraiment le client pour le CV Galette des Rois. Les Zooms, stop ou encore?
Les Zooms, on est obligé de le faire. On a recruté des gens uniquement par Zoom, donc on le fait.
On continue. Les team building, stop ou encore?
Notre aventure, c'est un team building permanent et c'est indispensable.
Les CHO, les Chief Happiness Officer, vous en avez?
Non, on n'en a pas, on n'en a pas besoin.
C'est la petite graine dans chacun des salariés.
Exactement.
Vous allez me dire.
Chaque personne contribue.
LinkedIn, vous êtes à fond?
C'est indispensable.
Les baby-foot?
Je pense qu'on va déménager là dans deux mois. Je pense que des baby-foot, il y en a un peu trop. Nous, on va plutôt partir, je pense, sur un terrain de pétanque.
Ah d'accord. Les salles de sieste, stop
on
ou encore?
S'est posé la question. On a décidé de ne pas le faire tout de suite.
Je vous donne un tips, on enlève les salles de sieste aujourd'hui dans les entreprises.
On a des canapés qui sont très confortables chez nous.
Les horaires ?
Complètement flexibles.
Assurément, c'est-à-dire que c'est pas une fausse idée, on fait les horaires qu'on veut.
Absolument.
Les tests de personnalité, vous êtes à fond.
Alors, tout dépend ce qu'on entend par test de personnalité, mais évaluer la personnalité du candidat, très important.
Moi, je vous parle du vrai test en 90 questions,
ah non,
où il faut répondre
tout.
Non, avec le test de logique.
Pas du tout.
Non, juste question ouverte en fait, vous êtes plutôt. C'est quoi le talent que vous cherchez aujourd'hui chez Michel Augustin ?
C'est une grosse personnalité, c'est quelqu'un de passionné. Et c'est aussi un gros bosseur, parce que malgré tout, même si c'est l'impression qu'on donne, c'est pas des colonies de vacances, être chez Michel et Augustin, c'est pas...
Oui, parce que moi, j'avais réservé mes vacances élèves, chez vous.
Des écoles de commerce. Et donc, c'est un peu une combinaison de ces trois éléments-là.
On travaille chez vous, on s'amuse. Est-ce qu'il y a des gens avec lesquels ça ne passe pas du tout, ça ne fonctionne pas?
Bien sûr, parce qu'en fait, on essaie de prendre des risques sur certains candidats. Et il y a certains candidats qui arrivent chez nous qui pensent justement parfois que c'est un peu la fête permanente et qui ont oublié qu'il y avait aussi une forte exigence dans notre culture. Et quand cet équilibre-là ne fonctionne pas, ça ne matche pas.
Vous avez passé votre CAP de pâtissier?
J'ai mon examen le 8 octobre.
Ah.
Grosse pression.
Il faut nous faire un gâteau. Merci beaucoup, Sébastien Guillon, d'avoir été avec nous, CEO de Michel et Augustin. Les cabinets de recrutement, vous les utilisez encore ?
Non.
Non, on va en parler avec Chantal Baudron. C'est tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on est avec Chantal Baudron, chasseuse de tête et business angel. Bonjour Chantal.
Bonjour Laure.
Vous êtes la première femme de France business angel. Vous avez combien de startups que vous suivez ?
Et la seule femme parmi les 30 premiers investisseurs.
Absolument.
J'ai investi, mais de sommes très modiques, très modestes, dans 54 startups.
Ah oui, 54 startups et chasseuse de tête, l'une des chasseuses de tête les plus connues de Paris.
Merci.
Spécialisée dans le luxe notamment.
Pas seulement, pas que.
À la mode ?
Plus que ça, mais...
Quoi d'autre ?
On connaît cette facette parce qu'elle est la plus importante dans notre cabinet, mais nous sommes aussi beaucoup dans la distribution. Malheureusement, elle va plutôt mal en ce moment. Nous sommes dans la santé, nous sommes dans le digital, nous sommes dans l'industrie en général. Donc, on a plutôt vocation à être généraliste, mais avec des practices plus dominantes que d'autres.
Vous êtes entrepreneuse vous-même, puisque c'est votre cabinet que vous avez lancé en 1980. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du métier de chasseur de tête tel qu'il était quand vous avez lancé votre entreprise ?
Alors, pour faire cet historique rapidement de 40 ans de métier, au début, dans notre métier, le métier était un métier de sélection, c'est-à-dire le mot chasseur de tête existait peu encore, et ça consistait à trouver des candidats, on les trouvait facilement à l'époque par les annonces dans la presse, et de les sélectionner à travers des tests, des entretiens, etc. Aujourd'hui, la donne est bien différente. Et au passage, je précise que j'aime pas beaucoup ce terme de chasseur de tête parce que
vous n'êtes pas la première à me dire ça. Les chasseurs de tête n'aiment pas ce mot.
Très réducteur, parce qu'on croit que notre métier, c'est seulement de trouver des expertises. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. Et moi, ce que j'aime, c'est le terme de conseil en recrutement, c'est-à-dire accompagner son client dans toute la phase du recrutement, depuis la définition du besoin jusque dans le conseil de la décision.
Oui. Donc vous êtes plus sur l'entreprise que sur le candidat en lui-même, puisque vous êtes dans le conseil auprès du recruteur.
C'est ça, parce que d'abord c'est l'entreprise qui nous paye, ma chère Laure.
Donc, of course.
Voilà.
On sait où est le client.
Exactement. Donc voilà. Mais on est aussi, nous considérons que nous avons que nous sommes les conseils des deux parties quand même, parce que on peut être aussi amené à donner des conseils au candidat.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui aimeraient qu'un chasseur de tête les appelle, se faire repérer ? Est-ce qu'il faut être discret justement pour que ça vienne comme ça d'un coup ? Comment on fait ?
Alors moi je pense qu'il y a deux choses à faire pour les candidats. Le premier, c'est d'avoir de la visibilité. Une entreprise, quand elle veut faire connaître ses produits ou sa marque ou l'entreprise elle-même, elle a besoin d'un bon référencement sur le net. C'est la même chose pour les candidats. Il faut qu'ils soignent leur référencement lancement. Et donc, ça veut dire être très actif et essayer de se positionner comme un expert dans leur domaine. Alors, comment doivent-ils le faire? D'abord, en ayant un profil. Alors, vous savez, je suis obligée de citer LinkedIn, même si c'est mon ennemi juré.
Bien sûr.
Parce que, vous voyez, les profils,
mais quand même.
Les profils LinkedIn sont toujours regardés. Donc, il faut savoir utiliser les mots-clés utiles. Il faut savoir également participer à des communautés professionnelles, tout ceci pour se donner de la visibilité. Il faut que le candidat accepte de se considérer comme un produit sur un marché concurrentiel et donc il doit tout
travailler
faire,
son marketing.
Voilà, exactement, du personal branding, on va dire, hein, comme le font les entreprises.
Et alors après, vous l'avez remarqué, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui vous donne envie d'appeler un candidat?
Alors, bon, déjà, nous avons des cahiers des charges extrêmement précis qui font qu'il faut que son profil réponde aux critères du cahier des charges. Mais ensuite, à l'intérieur d'un ensemble assez grand et considérable, il faut repérer les bons. Et c'est justement par tout ce travail. Alors, c'est aussi faire des tables rondes, c'est aussi participer à des émissions. BFM Business est un must.
Ah, oui, allez. Voilà. Faut passer sur BFM Business pour trouver du travail.
Exactement. En tout cas, ça aide beaucoup, sans doute. Voilà, donc c'est tout ça. Et puis, ce référencement personnel, soigner la visibilité pour que les chasseurs vous repèrent. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi être proactif. Ça veut dire qu'il faut aussi se rapprocher des cabinets. Et pour ce faire, moi, je conseille d'identifier au sein des structures le ou les consultants qui s'occupent de la practice qui vous concerne et d'essayer d'entrer en relation avec eux. Alors, je sais que ce n'est pas facile parce que tous les candidats se plaignent de ce que les consultants ne les voient pas. Les consultants étant très mobilisés, bien sûr, par les missions en cours. Mais au moins, ils auront entendu parler de vous et vraisemblablement, ils vont mettre votre CV dans leur base de données.
Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter sur LinkedIn, les appeler en disant voilà ce que je cherche, voilà quel est mon profil.
Exactement.
Si vous entendez parler de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler.
Oui, si vous entendez parler de quelque chose. Si vous avez une mission, hein, parce que voilà.
Il faut être business, il faut attendre faut du délivrable.
Voilà, exactement.
Aujourd'hui, vos clients, les entreprises pour lesquelles vous travaillez, qu'est-ce qu'ils veulent en priorité comme type de profil? C'est l'agilité, c'est la gestion des risques, c'est quoi?
Alors, c'est évidemment variable selon les contextes quand même. Et moi, je crois que c'est la capacité à s'adapter, parce que les choses changent très vite. On est vraiment avec des bouleversements, que ce soit au niveau du contenu des fonctions, au niveau de l'évolution des marchés, etc. Donc, je pense que l'adaptation et la remise en question, peut-être, sont les deux caractéristiques importantes.
Cette évolution hard skills, soft skills, chez les clients, vous la voyez dans les demandes?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'aime pas ce terme de chasseur de tête, parce qu'on oublie qu'il y a toute cette partie qui, à mes yeux, moi je suis psychologue de formation, est la plus importante, c'est-à-dire à quelle personne on a affaire. Et savoir faire une bonne adéquation entre une personnalité avec ses motivations, ses comportements, etc., et la culture de l'entreprise, et moi je crois le secret de notre métier, c'est là que ça se passe.
Mais c'est-à-dire que vous faites des vrais entretiens longs avec les candidats, ça vous prend à peu près combien de temps de
recruter ? Alors, on en fait plutôt plusieurs, c'est-à-dire que le premier, d'ailleurs les choses changent aujourd'hui, parce que le premier maintenant on le fait par visio pour éviter les contacts physiques, et centré sur la vérification de ses savoir-faire avec notre cahier des charges. Mais on en fait, pour les candidats qui ont retenu notre attention, on en fait un deuxième, cette fois-ci centré sur la personne et ses motivations, vous voyez ? Il faut aussi qu'il y ait un bon accord. Et puis, ce qui va être aussi déterminant, c'est le contrôle de référence. Tout le monde en fait, mais plus ou moins bien. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Je trouve que c'est même presque l'arme secrète la plus importante que j'ai. On va interviewer 10 à 12 personnes, vous voyez, pour le top management.
Ah oui, oui, autour, qui ont travaillé avec la personne.
Exactement. Alors, à trois niveaux hiérarchiques, les pairs et les collaborateurs. Des collaborateurs, on apprend d'ailleurs beaucoup de choses intéressantes. Et
c'est terrible. Enfin, oui, c'est très poussé.
Et on va les mobiliser, c'est là où c'est peut-être le plus difficile, 30 à 45 minutes par entretien, parce qu'il faut du temps que les choses sortent. Vous voyez que, voilà. Et ça va nous permettre quoi? Un, de vérifier la performance, c'est-à-dire quels résultats ils ont réellement obtenus. On sait tous que les candidats enjolivent les résultats.
Bien sûr. Personal branding.
Et voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on va savoir tout aussi de leur comportement, de leur relation, et même on va jusqu'aux valeurs, voyez. Et les valeurs, c'est important aussi pour bien s'intégrer à une culture d'entreprise.
Et vous dites 10 10 à 12 entretiens, ce qui paraît énorme, de 45 minutes, tous les gens que vous sollicitez pour parler d'un candidat qui ne les concerne pas directement acceptent de parler d'un ancien manager, d'un ancien collègue ?
Absolument. On a rarement des refus. Et puis... On va même plus loin parce que quand on doit demander la liste de référence au candidat et quand on la regarde, qu'on l'examine avec lui et qu'on se rend compte qu'il y a des trous, c'est-à-dire que dans une entreprise donnée, il n'a pas cité sur hiérarchique, on demande pourquoi et on demande la permission de l'appeler quand même, éclairé sur le contexte.
Oui, parce que la règle, c'est qu'il doit donner une liste.
On peut avoir son autorisation. Mais les candidats ne refusent pas dès l'instant où ils ont pu exprimer ce qui s'était passé. Voilà.
Est-ce que vous avez eu, en 40 ans de métier, des gros plantages ? Des erreurs totales sur la personne, des greffes qui ne prennent pas.
Non, c'est presque anecdotique, mais quelqu'un qui était un mythomane.
Ah.
Et oui. Et alors à l'époque, on devait faire moins de contrôle de référence, j'imagine, parce que on est passé à côté. Voilà.
Mais sinon, globalement.
Franchement, si je suis encore là, je crois que c'est parce que je ne me suis pas trop souvent trompée.
Voilà. Et LinkedIn ne vous a même pas mis à terre.
Non, mais il faudrait. Enfin, c'est quand même un vrai
souci. Non, mais
c'est
un vrai concurrent.
Oui, oui. Parce que les entreprises, vous savez, autrefois, on nous achetait aussi parce qu'on se disait, eux savent trouver les gens là où ils sont, les bons, etc. Aujourd'hui, avec LinkedIn, ils se disent, on les trouve facilement. Alors pourquoi faire appel à un chasseur de tête ? C'est ce que vous disiez, votre interlocuteur.
Absolument.
Tout à l'heure, je crois.
Mais de Michel et Augustin, qui disait, moi, je n'utilise plus de cabinet aujourd'hui.
Alors, mais bon, il y aura peut-être aussi. Il arrive que des entreprises viennent vers nous parce qu'elles se sont trompées. Et qu'elles disent, aidez-nous à ne pas nous tromper quand même. Mais quand je dis tromper, c'est par rapport aux soft skills. Hein.
Merci beaucoup Chantal Baudron d'avoir été avec nous, chasseuse de tête, même si vous n'aimez pas ce mot, ça nous parle sur BFM Business et Business Angel. Tout de suite, on va parler de feedback.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va parler de feedback. Qui ne fait pas de feedback dans son entreprise aujourd'hui? Des feedbacks 360, des séances où comme ça tout le monde se juge et tout le monde donne ses conseils, bienveillants ou pas. Bonjour Stéphane Moriou.
Bonjour Laure.
Vous êtes CEO de More Human et vous êtes un spécialiste du feedback. Vous en faites même des spectacles de théâtre. C'est quoi un bon feedback?
Alors un bon feedback, c'est fondamentalement un feedback qui va vous nourrir, qui va vous apprendre quelque chose, qui va vous faire grandir. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas un jugement.
Et un mauvais feedback?
Alors justement, un mauvais feedback, c'est quelque chose qui va juger, qui va vous faire perdre confiance en vous et qui finalement va vous faire stagner, vous faire douter de vous-même. C'est ça la grande différence.
Qu'est-ce que vous pensez de ces séances comme ça où tout le monde se met, on met un individu sur une chaise et puis tout le monde dit, moi quand je travaille avec toi, je trouve que t'es bordélique, t'es en retard. Et puis chacun passe comme ça, chacun son tour.
Alors je suis peut-être pas un grand fan des séances d'espèce de psychothérapie collective en entreprise.
Il y a des tableaux Excel en soi aussi, des tableaux Excel avec les avis de tout le monde.
Alors moi je crois que le feedback c'est avant tout un petit outil de communication qui est là pour favoriser les échanges en direct et surtout avec cette idée bienveillante de faire grandir l'autre. Donc tout ce qui va être trop technique, trop mécanique, trop collectif, finalement va être contre l'idée même de nourrir l'autre. Il y a des moments où on a juste envie d'être intime avec la personne, on a juste envie de recevoir ce petit cadeau bienveillant et puis ensuite on en fait ce qu'on en veut.
Mais alors c'est ça, on en fait ce qu'on en veut. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous donne un conseil ou un avis, un retour sur son travail, on n'est pas obligé de l'écouter.
Exactement.
Alors on l'écoute parce qu'on est poli, mais on en fait ce qu'on en veut.
Oui, tout le monde dit que le feedback est un cadeau, mais peu de gens disent que finalement un cadeau c'est un acte libre. Donc si c'est un acte libre, je suis libre de vous le donner, mais vous êtes aussi libre de le recevoir. Et ça, ça fait une énorme différence entre d'un côté les ordres, dont on a besoin, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans la vie familiale d'ailleurs, et de l'autre côté le feedback qui lui est quelque chose qui peut faire grandir, mais en offrant à l'autre de la liberté. Et cet espace de liberté est essentiel si on veut bien pratiquer le feedback.
Mais alors, dans le contexte de l'entreprise, comment on fait la différence entre le feedback et l'ordre quand il vient de son manager ?
Alors, je pense que d'abord, il faut travailler sur sa culture feedback. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer comme ça dans une entreprise, je sais donner du feedback. Il y a un énorme paradoxe dans toutes les études qu'on a pu mener qui est que d'un côté, les gens pensent savoir donner du feedback, mais de l'autre côté, les gens se plaignent de ne pas assez en recevoir ou de ne pas en recevoir de bons feedbacks. Et donc, il y a un paradoxe parce que si tout le monde savait en donner, on en recevrait plus régulièrement. Par rapport à ça, donc il faut travailler sur la culture du feedback dans les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut définir un vocabulaire, une grammaire, c'est-à-dire un langage autour du feedback. Et une fois que l'entreprise, manager et collaborateur ont défini ce mode de communication, eh bien alors on peut voir si effectivement les gens pratiquent bien, dans le bon esprit, ce que doit être le feedback.
Donc il faut vraiment écrire, voilà ce que c'est qu'un bon feedback.
Alors l'écrire, c'est peut-être pas forcément obligatoire, mais en tout cas, il faut s'entendre.
Sur une espèce de charte.
Exactement. Parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, ça fait pas partie hallucinogène, ça fait pas partie de notre culture, de notre éducation. On est aujourd'hui la rentrée scolaire. Dans nos études, par exemple, on a montré que les gens adultes que l'on interrogeait en leur disant « Mais tiens, où est-ce que tu as reçu du feedback dans ta vie ?» L'endroit où ils disent qu'ils en reçoivent le moins, c'est à l'école. Et ils disent « En moyenne, j'ai seulement rencontré 4 enseignants tout au long de ma scolarité qui m'ont donné du vrai feedback. 4 seulement. » Donc on n'est pas habitué à ça. Donc il faut redéfinir quelques codes, quelques règles simples. Alors on peut les écrire.
Mais est-ce qu'il faut dire tous les jeudis on fait une séance de feedback ?
Alors, parfois, ça peut être utile de définir des routines, parce que le feedback, ça fait partie de ces sujets où, à la base, tout le monde est d'accord, et puis quand il s'agit de les mettre dans la vraie vie, on a parfois toutes les bonnes excuses du monde pour oublier d'en donner ou d'aller en chercher. Je voudrais juste préciser par rapport à ça, alors, que le feedback, on a parlé du manager vis-à-vis du collaborateur, mais le feedback, ça n'est pas que ça, c'est aussi le collaborateur qui doit être autorisé à en donner à son manager, et c'est le collaborateur qui peut en donner à d'autres collaborateurs. Et il y a aussi un vrai enjeu
pour ça. Ça marche dans tous les sens, c'est pas forcément une question de hiérarchie. Merci beaucoup Stéphane Moriou, vous allez bientôt rejouer votre spectacle sur le feedback.
Exactement, à Lille bientôt au Spotlight et à Toulouse au mois d'octobre.
Bon courage, hein. On remplit les
Merci
salles,
beaucoup, Laure.
on essaye d'aider les gens qui font des spectacles et les théâtres. Merci beaucoup d'avoir suivi Happy Boulot, le mag. On se retrouve la semaine prochaine, on parlera manager de transition. À très bientôt et bon week-end.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.